Chapitre 17. Même s'il abominait Ildakar, le sorcier en chef Maxime commençait à douter sérieusement des joies du retour à la nature. Après 5 jours dans les marécages, il était débraillé, trempé jusqu'aux os, couvert de boue et affamé, sans parler des insectes assoiffés de sang qui l'attaquaient en permanence. Alors qu'il traversait d'inextricables broussailles, il dut recourir à son don pour ne pas s'engluer dans une toile d'araignée géante. Débouchant sur un îlot de terre au sol couvert de mousse et d'une boue gluante, il dut reconnaître à contre-cœur qu'il ne trouverait rien de mieux pour camper. Son pantalon noir disparaissait sous la gadoue. Par bonheur, la soie d'Ildakar, particulièrement solide, ne s'était pas déchirée. Quant à ses bottes en peau de yaksen, elle lui gardait les pieds au sec, sauf quand il s'enfonçait jusqu'aux cuisses dans la tourbe qui s'infiltrait par le haut à revers des bottes. Accablé, Maxime fit le tour de son pitoyable refuge. Dans l'eau glauque tout autour, d'étranges ombres passaient et repassaient. Avec des branches mortes, le naufragé bâtit un petit foyer. Le bois était trempé, mais le sorcier le plus puissant d'Ildakar réussirait sûrement à allumer un feu de camp. Pas vrai ? D'un geste, il bombarda de pouvoir le bois afin de le sécher, puis il y projeta une étincelle censée l'embraser. Miracle des miracles, des flammes crépitèrent, déchirant les ténèbres de plus en plus denses. Avant de s'asseoir sur une souche, Maxime l'épousta soigneusement. Une autre nuit difficile se profilait. Combien il regrettait les grands lits douillets de sa villa à Ildakar. À cette heure, après s'être délecté du corps d'une de ses innombrables conquêtes, il aurait été sur le point de s'endormir entre des draps de soie. Ou il aurait pu être étendu près de ce glaçon empoisonné nommé Thora, un monstre dont la froideur ne s'exprimait pas seulement au lit. Transi, Maxime se pencha vers les flammes. Tout valait mieux qu'être près de cette maudite femme. Près de 2000 ans plus tôt, il se consumait d'amour pour Thora. Ne se quittant jamais, sa femme et lui s'aimaient avec une passion qui dépassait les envolées poétiques des troubadours les plus doués. Ensemble, la souveraine et le sorcier en chef avaient généré une stupéfiante magie afin de diriger la cité dont ils se proclamaient les gardiens. Idéaliste, Thora rêvait d'une société parfaite où chaque esclave, travailleur ou marchand aurait servi la ville à sa façon. Le grand projet de sa femme. L'esprit embrumé par l'amour, Maxime l'avait laissé faire. Aujourd'hui, dans ce marécage puant, cette seule idée le répugnait. Comment pouvait-on être si crédule? Avec autant de pouvoir que lui, avoir un cœur si faible était une honte. Au lieu de s'embarquer dans le délire de Thora, il aurait pu prendre les choses en main et créer la société dont il rêvait, pas celle qu'il croyait idéale parce qu'il vénérait une vipère. Au fond, à l'époque, ce projet lui semblait peut-être bénéfique pour de bon. Mais au fil du temps, un homme changeait et ses désirs évoluaient. En un sens, Ildakar était sa plus grande réussite. Après des siècles de stagnation, il n'en avait plus rien à faire. 1500 ans plus tôt, face à l'armée d'Outros, Thora et lui ne faisaient qu'un avec les autres membres du Douma. Une époque exaltante avec de vrais enjeux. Mais l'étoile la plus brillante finissait un jour ou l'autre par s'éteindre et aucun amour ne durait éternellement. La nature humaine, rien de plus. Thora avait un corps parfait et un visage si magnifique qu'aucun sculpteur n'était jamais parvenu à le graver dignement dans le marbre. Pourtant, ses baisers jadis délicieux étaient devenus fades, et les courbes de son corps n'évoquaient plus rien pour Maxime comme s'il s'était agi d'une coquille vide. Avec les rêves de Thora en guise de fondation, Ildakar était devenue une cité grisâtre et mortellement ennuyeuse. Même si les habitants ne s'en apercevaient pas, la glorieuse ville n'était plus qu'un superbe vase de porcelaine, tout craquelé de l'intérieur. Ce vase, Maxime avait décidé de le briser. Pour ça, il était devenu masque-miroir, agitateur en chef des esclaves et des classes inférieures dont il avait attisé la colère et les doutes. Une expérience passionnante qu'il avait diverti pendant un temps. Opprimés, les petites gens attendaient un sauveur et il leur avait donné masque miroir, un héros à l'aura mystérieuse. Un simple jeu au début, duper ces imbéciles étant un plaisir d'esthète. Son plan devenu plus complexe, il avait pris conscience d'avoir entre les mains une arme mortelle pour s'attaquer aux nobles, aux membres du Douma, aux sorciers arrogants et à cet été noir de Thora. Ildakar n'était plus qu'un immense tas de bois sec qu'il allait embraser. La révolte avait été son heure de gloire. Sous ses yeux, les esclaves avaient libéré les fauves de combat, rallié à leur cause les gladiateurs et semé la terreur dans les rues. Voir ses plans porter leurs fruits, avec l'aide involontaire de la très belle Nietzsche qu'il avait embobinée, avait été quasiment orgastique. Un succès total. Thora renversé, Maxime avait fui le Dakar. L'écroulement d'accord, mais à condition de ne pas en être victime. Histoire de jeter de l'huile sur le feu avant de partir, il avait levé le sort de pétrification qui neutralisait depuis 1500 ans les hordes d'Outros. Comme il aurait aimé pouvoir rester dans le coin et contempler les carnages à venir. Mais c'était bien trop dangereux. Du coup, par sa faute, il se retrouvait perdu dans un marécage, des légions d'insectes acharnés à le vider de son sang. Avec son don, il sécha ses vêtements et se lava afin de se sentir un peu mieux. Par bonheur, il pouvait contrôler son environnement. Même sans lit à baldaquin et drap de soie, il survivrait. Mieux que ça, il serait le roi de ce foutu marais peuplé de monstres et plus puant qu'un cadavre de 3 jours. Être roi, c'était déjà ça, et ça lui ouvrait bien des possibilités. Avec une branche de saule arrachée à la jungle, il remua la tourbe autour de son refuge et dérangea un gros poisson en quête de vermine. D'un simple sort, il arrêta le minuscule cœur de l'animal qui remonta bientôt à la surface, flottant sur le ventre. Maxime le saisit, lui enfonça la branche dans la gueule, puis fit tourner au-dessus des flammes sa brochette improvisée. L'oreille tendue, il écouta les bruits, à la fois inquiétants et rassurants des créatures nocturnes. Même si des branches mortes craquaient non loin de là, les gros prédateurs, il le savait, n'oseraient pas s'en prendre à lui, et dans le cas contraire, il le regretterait. En silence, Maxime observa la cuisson de son dîner. Si les fichus insectes fondaient sur la zone, ce n'était pas à cause du poisson bientôt cuit, mais du fumet d'humain qu'il sentait de loin. Quand un moustique géant le piqua dans le cou, Maxime sursauta. La coupe étant pleine, il lança son sort de pétrification en vagues successives pour que tout le nuage de suceur de sang soit frappé. Transformés en petits cailloux, les monstres ailés tombèrent dans la tourbe. Avec un peu de chance, Maxime dînerait en paix. Après, les prochains nuisibles arriveraient, infestations bourdonnantes et sanguinaires. Soudain, un démon jaillit de la jungle. Non, pas un démon, une femme. Adessa, la chef des Morassites. Dans ses yeux, Maxime lut tout sauf de la tendresse à son égard. Mince et sculptée, la diablesse avait une arme dans chaque main. Une épée courte et un couteau, pour être précis. Sur sa peau nue éclairée par les flammes du feu de camp, le sorcier en chef, en plus des runes gravées au fer, remarqua une myriade d'écorchures, de bleus et de piqûres d'insectes infectés. Stupéfié par cette apparition, Maxime en resta bouche bée.
« Je viens te tuer !»
annonça Adessa. Avec son épée courte, elle coupa des branches et des buissons pour se frayer un chemin jusqu'à sa cible. Maxime se leva enfin.
Que racontes-tu là? Je t'interdis d'attenter à ma personne. Ton sorcier en chef te le défend.
Sans un mot de plus, Adessa chargea. Une autre guerrière aurait sans doute poussé un cri, mais la Morassite était une machine à tuer silencieuse. D'instinct, Maxime utilisa son don pour propulser une boule de feu sur la furie. Bien entendu, les runes de protection la neutralisèrent. Levant son épée, Adessa l'abattit sur le sorcier en chef qui s'écarta au tout dernier moment. Voyant qu'Adessa avait momentanément perdu l'équilibre, il bombarda de pouvoir le feu de camp dont les flammes prirent des dimensions titanesques. Étant magique, elles ne brûlèrent pas la Morassite, mais la chaleur et la vive lumière la forcèrent à reculer. Maxime saisit l'occasion au vol. Sautant dans la gadoue, il détala sans demander son reste. Dans son dos, la voix d'Adessa retentit.
« La souveraine m'a ordonné de lui rapporter ta tête. » « Sache que je ne la décevrai pas !»
Maxime avait souvent vu la Morassite en action. La dernière fois, c'était contre Nietzsche dans la salle de la Douma après que la magicienne eut défié Thora. Une victoire écrasante pour l'âme damnée de la souveraine. Que ce soit contre ses gladiateurs ou face à des fauves dans l'arène, Adessa adorait se battre. Sur ce registre, Maxime ne lui arrivait pas à la cheville. Contre elle, il n'aurait pas une chance. Se retournant, il lança un point d'air, mais les runes firent encore leur office. Du coup, il utilisa son pouvoir pour propulser sur Adessa des branches mortes. Les écartant sans peine, elle chargea comme un yaksen fou furieux dans l'enclos d'un abattoir. Maxime courut, s'enfonçant jusqu'aux genoux dans la tourbe. Plus légère, Adessa n'eut aucun mal à le suivre. Jamais à court d'idée, le sorcier en chef fit bouillir l'eau derrière lui. Un nuage de vapeur aveugla momentanément sa poursuivante. Tout ça, c'était reculer pour mieux sauter. En détalant comme un lapin, il ne pouvait pas se concentrer vraiment sur son don, et Adessa ne se laisserait décourager par rien. Avoir une moracite au basque, c'était une sentence de mort, même pour le sorcier en chef. Contre toute attente, le marécage sauva Maxime. Alors qu'il courait, Adessa fonçant dans son sillage comme une furie, deux grands dragons des marais s'interposèrent entre eux. Toujours en quête d'une proie à la hauteur de leur appétit, un cerf ou un sanglier par exemple, les reptiles carapassonnés bondirent sur la moracite, gueule béante et griffes dehors. Maxime continua à courir tout en jetant un coup d'œil derrière lui. Remise de sa très relative surprise, Adessa faisait déjà voler des écailles dans les airs à grands coups d'épée. Forcée à reculer par son premier agresseur, elle dut bondir par-dessus le second qui plongeait vicieusement vers ses jambes. Maxime se désintéressa de la suite. S'il pariait sur la moracite, deux crétins de dragon ne feraient jamais le poids contre elle, l'affrontement durait un moment et c'était exactement le répit qu'il lui fallait. Une chance de mettre de la distance entre Adessa et lui. Et maintenant qu'il la savait à ses trousses, il ne commettrait plus l'erreur de baisser sa garde.